Très bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 23 mesures pour soutenir et dynamiser le département de Seine-Saint-Denis. 4 ministres et le premier d'entre eux y sont en déplacement ce matin. Avant la promesse de réhabilitation de bâtiments et de création de postes, vous entendrez que les inégalités sont nombreuses dans cette banlieue parisienne.
Et puis dans cette édition, vous comprendrez aussi pourquoi certains syndicats de la SNCF boycottent une réunion prévue aujourd'hui sur la réforme des retraites. Le texte transformerait leur régime spécial en un système universel à points.
Le mariage entre PSA et Fiat Chrysler se précise. Le conseil d'administration de PSA a donné son accord à la fusion hier soir et à l'instant, le projet est officialisé par les deux constructeurs. Hakim Kasmi sera là pour nous éclairer à ce propos.
Et puis nous irons ensuite aux États-Unis où les élus sont appelés à se prononcer sur la procédure de destitution visant Donald Trump.
Nous irons aussi à Hong Kong où les militants pro-démocratie profitent d'Halloween aujourd'hui pour ressortir leurs masques dans les manifestations. Le rapport Borloo, rapport alarmant et ambitieux sur l'état des banlieues françaises, avait été écarté en mai 2018 par le gouvernement. Un an et demi plus tard, ce même gouvernement propose 23 mesures pour une banlieue en particulier, le département de Seine-Saint-Denis au nord de Paris, où sont attendus dans plusieurs communes ce matin les ministres de l'Intérieur, de la Santé, de l'Éducation et de la Justice, le Premier ministre également, Édouard Philippe. L'idée directrice des mesures annoncées est de réduire au maximum les inégalités reconnues de ce territoire qui abrite, rappelons-le, plus d'1 600 000 habitants. Inégalités du quotidien en Seine-Saint-Denis que racontent des lycéens ce matin au micro d'Agera Mohamed.
Chloé a 17 ans, elle a grandi au Pré-Saint-Gervais et la première des inégalités, c'est en classe qu'elle a vécu.
Moi par exemple, ma prof de français l'année dernière, sachant que j'avais le bac de français, elle a été absente pendant un mois et elle a été remplacée au bout d'un mois. Et donc les profs en fait qui arrivent, ils essayent de faire comme ils peuvent, ils reprennent un peu les pots cassés. Du coup, la fin du programme, elle a été un peu bâclée par exemple.
En Seine-Saint-Denis, un élève perd en moyenne une année de temps scolaire à cause des professeurs absents et pas remplacés. Et puis il y a la violence aussi, le sentiment d'insécurité pour John.
Sortir le soir, on a peur de se faire agresser. Moi ça m'est arrivé, ça m'a un peu traumatisé. Dans mon lycée, on n'a pas eu cours pendant 2 semaines parce qu'il y a un adolescent de 15 ans qui a été poignardé. Je trouve ça grave quand même. Donc voilà, j'en ai marre. J'en peux plus.
Mais la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas que ça pour Camille, agacée par la stigmatisation.
Par exemple, vous allez voir dans le Paris, dans le 16e, etc. Vous pensez quoi du 93? Délinquance, violence. Mais c'est pas de leur faute, c'est ce qu'on remet à la télé.
Le garçon est scolarisé dans un lycée parisien, privé, un souhait de ses parents pour augmenter ses chances. Et il a sa théorie sur son département.
En fait, il n'y a pas de diversité sociale, il n'y a pas de mixité sociale. C'est sur ça qu'il y a un problème.
Et comment on a créé la mixité alors?
La mixité sociale, c'est en faisant par exemple des avocats qui peuvent vivre avec des ouvriers dans le même bâtiment, sans qu'il y ait de problème. Sauf que là, on a fait la distinction dès le début.
Est-ce qu'on peut rattraper ce retard alors?
Là, honnêtement, c'est impossible de rattraper ce retard. C'est impossible.
Malgré tout, Camille ne veut pas quitter son 9-3, il y tient. Et puis si l'État ne change rien, dit-il, nous, on peut toujours essayer.
Voilà pour certains lycéens qui gardent espoir. Ce n'est pas le cas de certains professionnels. Au tribunal de Bobigny, par exemple, les juges d'instruction restent rarement plus de 2 ans sur un même poste. Sophie Combe, déléguée locale du syndicat de la magistrature, vice-présidente du TGI de Bobigny, nous explique pourquoi.
C'est vrai que les magistrats demandent leur mutation au bout de 2 et 3 ans, non pas parce que il y aurait un désintérêt pour ce département ou une lassitude des contentieux de Bobigny, mais c'est juste parce qu'ils sont usés. Usés de jamais avoir assez de salles d'audience pour faire les audiences correctionnelles dont on a besoin, jamais assez de greffiers, jamais assez de monde, pas suffisamment de greffiers aux affaires familiales pour pouvoir rendre les décisions à temps, jamais assez de tout. Alors en fait, on fait avec du bric-à-brac, des bouts de ficelle, la bonne volonté des gens, les heures supplémentaires, les audiences tardives, mais au bout d'un moment, ça fatigue.
Et pour répondre à cette fatigue, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, devrait annoncer ce matin la création de 35 postes de greffiers, de 12 magistrats. Pour la police, Christophe Castaner est lui en ce moment à La Courneuve. Il proposera 150 policiers supplémentaires pour un territoire où le taux de criminalité est le plus important de France métropolitaine. La rénovation de commissariats est également prévue. Et puis des établissements scolaires pour les élèves que nous entendions en début de ce journal. Enfin, une mesure phare, une prime de fidélisation pour les nouveaux agents des services publics, prime de 10 000 euros au bout de 5 ans de service en Seine-Saint-Denis. Annonce à préciser encore dans la matinée tout à l'heure par Édouard Philippe. Je vous le disais en sommaire de ce journal, le mariage entre PSA et Fiat Chrysler est sur une très bonne voie. Il s'agit d'une opération à 50 milliards de dollars pour constituer ce qui serait alors le 4e groupe automobile mondial. Après la confirmation de discussion, le conseil d'administration de PSA a donné hier soir son accord. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Et à l'instant, le projet de fusion est officialisé.
Oui, le schéma commence à prendre forme. On se dirige donc vers une fusion à 50-50, avec 11 postes au conseil d'administration, 6 pour la France et 5 pour le groupe franco-américain, avec un siège social qui, lui, serait basé aux Pays-Bas, sans doute, pour des raisons fiscales. Alors, si le conseil d'administration a validé l'opération, c'est que les actionnaires ont donné leur feu vert, en particulier l'État français, qui détient, rappelons-le, 12% du capital de PSA et 9% des droits de vote au conseil. Bercy, qui, dès le début des discussions, a indiqué qu'il serait très vigilant sur la question de l'emploi sur les sites français du constructeur. Alors, même si hier, le DRH de PSA a garanti le maintien de tous les emplois en France, ces derniers restent très prudents car avec les doublons, eh bien, on pourrait avoir à terme, peut-être dans quelques années, des suppressions de postes. Car il faut se souvenir, Clara, que Carlos Tabarès, le PDG de PSA, a mis en place deux plans de restructuration, Back in the Rise et Push to Pass, qui se sont soldés par 30 000 suppressions de postes depuis 5 ans.
Et vous parliez des syndicats, Kim, qui sont convoqués ce matin par la direction de PSA. À propos de cette fusion donc entre PSA et Fiat Chrysler, quels seraient les bénéfices, Hakim, pour PSA ?
Alors, en s'alliant avec Fiat, PSA va doubler sa production pour faire du volume et passer à près de 9 millions de véhicules par an, ce qui va lui permettre de réduire ses coûts de production, des coûts réduits estimés entre 3 et 5 milliards d'euros. D'autant que l'automobile connaît une double révolution avec la voiture électrique et autonome, qui nécessite beaucoup de moyens financiers, mais aussi en recherche et développement. Pour PSA, l'enjeu, c'est aussi le marché américain sur lequel il n'est pas du tout présent, ce qui n'est pas le cas en revanche de Fiat Chrysler avec deux marques très profitables que sont Jeep et Ram, des marques qui ramènent beaucoup de cash. Quant au groupe Fiat Chrysler, lui, il a besoin de PSA et bien tout simplement parce qu'il a des ventes qui sont en chute, elles représentent à peine 4% des ventes en Europe, mais surtout car il a accumulé beaucoup de retard sur les normes anti-pollution que va imposer Bruxelles à partir de l'année prochaine. Et du coup, à ce propos, Fiat a payé beaucoup de pénalités liées à ses retards sur les normes anti-pollution.
Merci beaucoup Hakim Kasmi, spécialiste transport à France Culture, à propos de cette officialisation du projet de fusion entre Fiat Chrysler et PSA. Après l'automobile, le ferroviaire. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ainsi que Jean-Paul Delevoye, chargé des retraites, vont rencontrer aujourd'hui, jeudi, plusieurs syndicats de cheminots à la SNCF. Ils doivent en fait discuter de la future réforme des retraites, mais on sait déjà que la CGT et Sudrail n'iront pas à ce rendez-vous. Ils ne veulent pas discuter d'une réforme qu'ils jugent injuste. Elle va changer pas mal de choses pour les cheminots, Diane Berger.
Le texte met fin aux possibilités de départ en retraite anticipée des cheminots. Il est aujourd'hui possible officiellement à partir de 52 ans pour le personnel roulant et 57 pour le personnel dit sédentaire. Mais le gouvernement veut mettre les employés des chemins de fer au même régime que le reste de la population, le régime par points. Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail, trouve ce changement injuste.
C'est encore une sanction pour les cheminots. Nous, si on accepte de faire des heures décalées en début de carrière, et d'avoir des salaires moins forts, c'était parce qu'à un moment donné, on pouvait partir plus tôt en retraite. Alors, il faut arrêter le mirage de 57 ans pour les sédentaires et 52 pour les conducteurs. Moi, je suis sédentaire, je suis rentré en 2001 et mon point de départ en retraite, c'est 62 ans. Cette réforme-là, pour nous, elle est injustifiable et elle est illisible en plus.
Un syndicat de cheminots soutient la réforme. Pour l'instant, c'est la CFDT. Sébastien Mariani en est le secrétaire général adjoint.
Nous y voyons, nous, l'opportunité de traiter mieux certains sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui dans le système de retraite actuel, notamment la question de la pénibilité, notamment la question des basses pensions qui, effectivement, pâtissent aujourd'hui des faiblesses du système actuel. Et on a quand même entre 45 et 50% des cheminots qui sont concernés par des emplois pénibles. Pour eux, le nouveau régime pourrait permettre l'acquisition de points supplémentaires dans le futur régime à points, dans la mesure où ils seraient plus affectés par le métier qu'ils ont occupé pendant leur carrière.
Face à la disparition de leur régime spécial, plusieurs syndicats de cheminots appellent toujours à la grève illimitée à partir du 5 décembre prochain.
Et en plus de cette grève sur les retraites, j'ajoute qu'un débrayage est toujours en cours dans le sud de Paris sur des questions salariales. Là, cela paralyse aujourd'hui 2 TGV sur 10 sur l'axe Atlantique. Il dit vouloir redorer l'image d'une ville, Rouen en l'occurrence. Emmanuel Macron y était en visite inopinée hier soir, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso. Il promet d'organiser à Rouen un événement diplomatique international dès l'année prochaine. Le chef de l'État annonce également des indemnités pour les professionnels à partir de la mi-novembre. Mais il s'est tout de même heurté hier soir au scepticisme des habitants. Certains souhaitent notamment que l'usine Lubrizol quitte le territoire. Et ils l'ont dit à Emmanuel Macron.
Lubrizol va rester ?
Écoutez, surtout pour le dire, ils sont en train de faire les travaux, etc. Mais enfin, c'est une entreprise, si on regarde les choses, qui s'est bien comportée. C'est-à-dire qui avait fait tous les travaux que l'État lui avait demandé, parfois au-delà, qui s'était mise aux normes, qui avait beaucoup investi. Hein.
Non, mais laisser autant de produits chimiques. Et aujourd'hui, je crois qu'en France, on n'a pas envie d'habiter. Après, on peut peut-être déménager.
Mais on veut savoir ce qu'il y a autour de nous, surtout.
Bien sûr. Maintenant, pour la suite, je pense qu'on ne peut pas éradiquer, l'industrie de notre pays.
Mais il faut. Dans l'heure, il y a quand même beaucoup plus, moins de monde. D'ailleurs, Rouen, c'est quand même une ville importante.
Vous voulez le mettre chez Monsieur Lecornu ?
Oui, je veux bien, oui.
Voilà pour cet échange hier soir entre le président de la République et des habitants de Rouen. Pourquoi s'adresser aux électeurs d'extrême droite en passant nécessairement par un hebdomadaire affilié comme tel ? La gauche et certaines associations s'insurgent aujourd'hui contre une interview du président Emmanuel Macron qui est publiée ce matin dans le très droitier Valeurs Actuelles. Il y parle immigration et religion. Pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi Valeurs Actuelles ? Réponse de Frédéric Saïs dans son billet politique. Ce sera après ce journal. D'immigration, il a aussi été question ces derniers jours, notamment après l'attaque de la mosquée de Bayonne. L'assaillant est mis en examen pour tentative d'assassinat après avoir grièvement blessé deux personnes le week-end dernier. Et Claude Cinquet risque la réclusion à criminelle à perpétuité. La justice estime que l'octogénaire souffre d'une altération partielle de son discernement. Le parquet national antiterroriste ne va donc pas se saisir de ce dossier.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le Pentagone publie une vidéo du raid lors duquel Abou Bakr al-Baghdadi est mort le week-end dernier.
Oui, ce sont des images en noir et blanc granuleuses. Elles montrent notamment un épais nuage de fumée noire s'élever du sol après que les bombes américaines ont rasé le complexe. La destruction de ce bâtiment en Syrie a, selon le Pentagone, pour objectif de s'assurer que celui-ci ne devienne pas un sanctuaire. Les États-Unis toujours, où la procédure de destitution lancée contre Donald Trump doit franchir un nouveau cap aujourd'hui. Le tout premier vote à ce propos est prévu à la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Un vote qui servira surtout à mesurer le soutien qu'apportent ou non les élus à cette procédure, Loïc Loury.
Les démocrates vont-ils tous se ranger derrière leur chef de file Nancy Pelosi ? Certains républicains sont-ils prêts à lâcher leur président ? Voilà quelques-uns des enjeux de ce vote de procédure dont l'adoption, en revanche, ne fait aucun doute. Mais le contenu également a son importance. Le texte d'abord fixe le cadre de futures auditions publiques. Après une douzaine d'entretiens à huis clos, les républicains seront enfin autorisés à participer aux interrogatoires, voire à convoquer leurs propres témoins. Par la suite, il encadrera également le droit pour Donald Trump de se défendre, même si les démocrates auront alors toute latitude pour refuser les requêtes de la Maison-Blanche. Objectif pour l'opposition, couper court aux critiques, les républicains dénonçant depuis des semaines une procédure opaque et injuste, une chasse aux sorcières, selon l'expression martelée par le président. Mais la Maison-Blanche persiste, ce cadre, dit-elle, est une arnaque. Elle préfère, rétorque les démocrates, se concentrer sur la procédure pour ne pas regarder le fond de l'affaire, à savoir les pressions exercées par Donald Trump sur l'Ukraine pour son bénéfice personnel.
C'était Loïc Loury à New York pour France Culture. Le gouvernement chilien renonce à organiser la COP25, la conférence de l'ONU sur le climat qui était prévue en décembre prochain. C'est un échec de plus pour le président Sebastián Piñera en pleine contestation sociale au Chili, notamment pour plus de pouvoir d'achat. Le peuple manifeste également et encore à Hong Kong. Le port des masques est toujours interdit lors des rassemblements. Alors les opposants au gouvernement et au régime de Pékin veulent aujourd'hui profiter d'Halloween, Florence de Changy.
Ils se sont donné rendez-vous ce soir à Victoria Park à Causeway Bay sur l'île de Hong Kong, le parc d'où partent généralement toutes les grandes marches de protestation. Mais ce soir, le rendez-vous n'est pas autorisé et son thème, fêter Halloween, est une excuse pour défiler masqué et défier ainsi l'interdiction imposée par le gouvernement, interdiction que la police a beaucoup de mal à imposer. Par ailleurs, un autre rassemblement est prévu au même moment à la station de métro de Prince Edward pour commémorer la descente très brutale de policiers dans cette station de métro le 31 août, il y a deux mois, donc jour pour jour. Depuis un malentendu sur le nombre de personnes transportées ce soir-là par les secours, on est passé de 10 à 7 blessés graves, les manifestants entretiennent le doute sur le fait que des gens aient pu mourir aux mains de la police. Un autre cas, celui d'une jeune fille dont le corps nu a été retrouvé en mer, alimente des rumeurs sinistres. L'institut de design où elle était étudiante a à nouveau été vandalisé hier par des manifestants persuadés que la direction de l'institut leur cache une partie de la vérité sur cette affaire. Une autre grande marche est prévue samedi pour protester contre la disqualification du jeune militant Joshua Wong à qui il a été interdit de se présenter aux élections de district prévues dans 3 semaines.
En ce 31 octobre, en France métropolitaine, les averses seront nombreuses. Tout le pays sera touché, excepté les frontières sur le nord-est. Ce matin, comptez 9 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 15 degrés à Rennes et Lyon et 21 degrés à Bastia.
Merci Clara Lecoq-Réal.